édition de Le Monde aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'Amérique. Et vous, Eric Manirakiza avec vous, Lionel Lunanira Gahima assure la mise en onde ce soir, le Mondial 2022 au Qatar et la culture. La culture footballistique est répandue sur tous les continents et partout, elle constitue un phénomène médiatique. De tout temps, les équipes ou les clubs ont été associés à des lieux, les clubs professionnels, autrement dit le grand football, associés à de grandes villes, la multitude de clubs amateurs à des quartiers, petites villes ou villages. La culture footballistique est répandue mondialement et ancrée localement, comme au Qatar où l'on suit cet événement planétaire qu'est le Mondial. Et face au scandale à répétition, le boycott a pris de l'ampleur parmi les fans et les médias. Des voix se sont élevées pour ne pas se rendre sur place et ne pas suivre les retransmissions des matchs au cœur des débats, des préoccupations environnementales et respect des droits humains. Malgré ces appels au boycott, le foot reste toujours puissant à la télé. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Amine Birouk, il est notre consultant sportif. Il se trouve à Doha, au Qatar, où il suit l'équipe du Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Nous avons en ligne Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du football, qui est en train de finaliser son livre sur l'Afrique et l'olympisme. Tarsis, bonsoir. Voudriez-vous bien préciser le titre de votre livre en cours d'édition?
Ben, c'est l'Afrique à travers les Jeux Olympiques. C'est l'image de cette Afrique combattante qui participe aux Jeux Olympiques. Disons, depuis plusieurs années finalement, puisque l'Afrique du Sud était au jeu en 1904 à Saint-Louis, par hasard, puisque c'est tout simplement un acteur qui devait jouer au cinéma, qui a été engagé au marathon. On a retrouvé des Noirs sud-africains et un Blanc aussi qui était là. Donc c'est toute une histoire où il y a le football, par exemple, pour le moment. Si l'Uruguay a organisé la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde en 1930, c'est que l'équipe d'Uruguay était championne aux Jeux de Paris, Jeux d'Amsterdam, deux fois championne olympique. Et donc, le football a été repéré là-bas. Et puis, bien sûr, le foot, oui, ça m'intéresse beaucoup. Quand on sait que et le football et la boxe et aussi l'athlétisme, c'est grâce à ces sports qu'on a pu constater l'évolution dans certains pays comme les États-Unis. La ségrégation raciale a été plus ou moins cassée et le noir s'est fait accepter.
Nous avons également coach Fofo qui est en ligne avec nous. Il se trouve dans le Maryland. Coach Fofo, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous.
Coach Fofo, le football est lui-même une identité culturelle inventée par les Anglais.
Ben oui, elle est incontournable parce que le football rassemble les peuples de toutes parts. Le football est un antécédent qui est indigestible. On ne peut pas détruire le football. Que vous voulez pour lever, pour protester, les gens ont l'amour de ce ballon rond à 32 panneaux et qui se laisse aller. Et je me rappelle d'une anecdote qu'on m'a raconté, c'était en 70 entre le tout-puissant Angleterre et le Étoile filante de Lomé. C'était une finale de la première coupe de la UEFA qui a été jouée à Lubumbashi. Le Étoile filante du Togo a perdu, je crois que 4-0. Et le match de retour était à Lomé. Si tu voyais tout ce qui s'est passé. Et le Togo a gagné 4-1 ou 5-1, mais c'était vraiment tout un sacrifice. Des gens se sont levés du matin au soir pour que cette victoire soit importée par le toit final du Togo. Mais du côté de Lumbashi aussi, Kalala et Kazadi se sont levés et ils sont sortis à 5 minutes de la fin du match et tout a été changé. Donc le football, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça donne la paix, ça réconcilie les peuples. Le football donne à des peuples qui n'ont rien, mais qui s'épanouissent. Donc on ne peut pas décrire, on peut pas expliquer ce qu'est le football. Sauf Dieu seul, c'est que comment il a fait créer ces 32 panneaux.
Je rappelle en passant que le match Argentine-Pays-Bas vient de commencer après 10 minutes de jeu. Le score est toujours au 0-0 partout. Le jeu est encore timide. Les deux équipes s'analysent mutuellement. Amine Birouk, vous êtes à Doha. Le Brésil vient de quitter la compétition contre toute attente. La samba qui faisait aussi la beauté de son mondial, on ne va plus voir cette danse culturelle brésilienne.
Et on va surtout avoir beaucoup de regrets pour les supporters brésiliens qui se font toujours une joie de venir colorer les phases finales de Coupe du Monde. Le Brésil est le seul pays au monde à n'avoir jamais manqué une seule édition du mondial. C'est le pays recordman de victoires. Elles sont au nombre de 5, 58, 62, 70, 94 et 2002. Et depuis 2002, le Brésil n'arrive plus à trouver la voie du succès. Il y a eu des éliminations successives en quart de finale en 2006, 2010, 2018 et maintenant 2022. Il y a aussi le fiasco et je dirais un jour de deuil national en 2014 face à l'Allemagne à Porto Alegre avec une défaite lourde de conséquences sur un score que le Brésil n'oubliera jamais, 7-1. Aujourd'hui, il y a un petit vent de tristesse du côté de Doha puisque le Brésil a calé face à une redoutable équipe de Croatie très bien organisée qui a su jouer avec ses armes. Et finalement, le Brésil, ce Brésil qui se targue de compiler les talents, compiler les forces d'individualité, n'a jamais été une équipe capable de résister et mentalement lors de l'exercice des tirs au but, qui est un exercice où il faut être solide mentalement, où il faut être adroit sur le plan technique. Deux Brésiliens ont manqué la cible, à savoir le jeune Rodrigo et le vétéran Marquinhos. Et c'est piano, sans avoir l'air d'y toucher, que la Croatie retrouve le dernier carré de la compétition pour la troisième fois de son histoire. Courte histoire d'ailleurs pour ce pays de l'ex-Yougoslavie. Les Croates ou les Yougoslaves étaient surnommés pendant les années 50, 60, 70 les Brésiliens de l'Europe. Ont vanté leur qualité technique et en même temps ont pointé du doigt leur défaillance mentale. Et bien aujourd'hui, ils ont été des monstres de sang-froid, des monstres de rigueur, de calme face à des Brésiliens qui n'ont jamais trouvé la cible, si ce n'est sur un exploit individuel incroyable de Neymar qui quitte un peu la compétition par la petite porte. On se promettait, on se frottait les mains l'idée d'avoir en demi-finale un Brésil-Argentine et si c'était Croatie-Pays-Bas, parce que pour l'instant les Croates y sont déjà, les Néerlandais pourraient y être en toute fin de partie en demi-finale si jamais ils parvenaient à tromper la sélection albicéleste.
Tarsis, vous avez suivi beaucoup d'équipes, vous avez voyagé dans plusieurs pays à travers le monde pour suivre le sport et en particulier le football. Est-ce que la manière de jouer des équipes reflète aussi l'identité culturelle?
Disons que le football fait partie de l'histoire, fait partie de l'histoire des nations. Si le football a pu s'implanter en Amérique latine, c'est que tout simplement il y avait les Espagnols qui étaient partis là et qui ont colonisé ces pays. Le Portugal, bien sûr, se retrouve aussi au Brésil, mais c'est toute une histoire. Quand on pense à l'Angleterre, avec évidemment le sport, comment il était organisé, qui était le sport de bourgeois, le sport des gens qui sont aisés. Et puis on va voir l'apparition du football qui bave les lois monarchiques complètement et que finalement on va, ce football qui va se faire accepter dans les quartiers et un peu partout et qui même rentre à l'école. Et on fait des lois. C'est exactement, donc c'est l'histoire des nations, c'est l'histoire des Espagnols, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire des colonies et qui fait que finalement, ce qui est très intéressant quand on va au Brésil, on va en Argentine, c'est que ce football-là, il est partagé. Donc, ça veut dire que le football fait partie de la morale, finalement. Et c'est toute une éducation. Puis, bien sûr, il y a le fair play. Donc, on accepte de perdre. Et aujourd'hui, c'est quoi au Brésil, c'est la tristesse, c'est tout un peuple qui est en train de pleurer. On a vu les pleurs de Neymar, mais demain, bon, on va dire, mais écoute, c'est fini, on va retravailler encore cette équipe et le Brésil sera le Brésil. De toutes les façons, tout le monde imite le Brésil, même un pays comme la Croatie, à un moment donné, si vous avez analysé le match, la première période, la Croatie jouait le football brésilien. Donc c'est ça en fait. Donc ça fait partie de la culture et c'est devenu aussi un système d'éducation, un système qui fait rassembler, qui fait unir et qui fait ce qu'on peut appeler actuellement le système d'insertion sociale par le sport. Et ce système est devenu un système éducatif et un support d'intégration et d'inclusion.
Coach Fofo, vous encadrez des équipes ici aux États-Unis, mais le soccer, comme on l'appelle ici, ce football qu'on connaît en Afrique, il est surtout intéressé par certaines catégories des Américains et surtout les Africains américains.
Oui, effectivement, le soccer a été aussi emporté par les Anglais. La culture s'aligne toujours sur ce sport et qui est arrivé ici. Et effectivement, cet alignement sur le côté bourgeoisie, ça a donné qu'aux États-Unis, depuis 20 ans passés, le football n'a pas beaucoup bougé parce qu'il y avait ce côté pay-to-play. Faut payer pour jouer. Et beaucoup d'immigrés qui sont arrivés il y a 15-20 ans n'arrivaient pas à s'infiltrer dans les clubs. Et bon, je crois que ça a été une bataille que nous autres aussi, on a mené pour pouvoir changer un petit peu les données. Et malgré que maintenant les Espagnols sont là, les Africains sont là, donc les clubs qui demandaient beaucoup d'argent, maintenant aussi ont commencé à dire, écoute, on va aller chercher ces talents. Et maintenant, on leur donne du scholarship et ça a commencé à changer la structure de chaque club maintenant parce que tout le monde veut le football technique, la force physique dans leur club. Donc, cette culture a été emportée aujourd'hui. Tu peux voir dans les équipes américaines, même il y a les souches descendants africains, comme le fils de George Weah. Et il y a les descendants ghanéens. Donc, la culture en fait partie et a aussi aidé ce pays que son football a beaucoup évolué. Donc, les États-Unis ont la chance de recevoir la Coupe du Monde en 2026. Donc, on attend beaucoup de choses. Déjà, l'année prochaine, il y aura beaucoup de décisions, beaucoup de choses qui vont commencer à tomber pour pouvoir être prêts dans les 4 ans pour recevoir ce Coupe du Monde et faire quelque chose. Ils seront obligés d'accommoder, d'accepter, de faire ce métissage de manière à faire le brassage des couleurs et à accepter certains critères parce que on a vu que le football, comme le soccer, on l'appelait ici, était un petit peu particulier. Ils ne voulaient pas changer, ils voulaient le laisser que ce soit un truc pour eux, mais à la fin de la journée, ils ont vu que non, ce sport est mondial, ça doit jouer à la note du monde. Et ça doit être laissé aussi à la portée de ceux qui n'ont pas les moyens de l'adhérer et de le jouer. Et surtout que maintenant les Américains profitent de l'aisance et les qualités des joueurs africains et des Sud-Américains.
Amine, vous êtes à Doha. On a vu que le mondial peut supprimer les barrières entre les pays et les personnes. Il y a des cultures, certaines cultures par exemple, qui ne sont pas fortes dans le football. On a vu lors de la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, ou quand le Maroc a battu l'Espagne, on a vu une forme de fraternisation entre des peuples qui habituellement ne s'entendent pas.
Bah écoutez, le football transgresse les frontières. Le football, pour peu qu'il soit pris du bon côté, permet de rapprocher et de faire connaître des cultures. Le match Maroc-Espagne a permis à des Espagnols qui ne connaissaient pas beaucoup de choses sur le football marocain, sur le Maroc, d'en savoir un peu plus, parce qu'il y a eu des interviews, il y a eu des rencontres, il y a eu des articles de fond, il y a eu une fraternisation dans les tribunes, il y a eu ces rencontres en plein Doha. Donc la Coupe du Monde est un moment unique de partage. Elle a lieu tous les 4 ans, elle transgresse évidemment les préjugés et elle permet évidemment de mieux se connaître, de mieux s'entendre, et ça évite, je pense que le football peut servir, je dirais, ou peut être une solution, pour peu qu'il soit utilisé, je dirais, et pris du bon côté, sans chauvinisme, sans nationalisme excessif, comme un moyen de rapprochement de plusieurs civilisations qui sont souvent antagonistes. Le problème qui se pose, c'est qu'évidemment, quand une Coupe du Monde a eu lieu dans un pays comme le Qatar, tous ces préjugés qui ont peut-être gâché une partie de la fête en tout début de compétition, parce que quand vous venez ici à Doha, vous découvrez d'autres choses et vous pouvez de temps en temps déchirer certains articles à charge qui ont peut-être contribué un peu à fausser cette compétition au tout début, notamment sur le plan de l'engouement populaire.
Amine, je reste avec vous parce que vous allez partir dans un moment. Il y a eu plus d'un million de téléspectateurs dans ce mondial, soit plus d'un tiers de la population du Qatar. Comment cohabite cette mosaïque de cultures qui se rencontrent dans une petite ville ?
Ce n'est pas une si petite ville, c'est une ville qui est très étendue, très américaine dans sa conception, dans son architecture. On peut avoir un rapprochement avec certains buildings de New York, de Miami, de Los Angeles. On peut avoir également une partie d'Italie, une partie d'Espagne, parce que finalement, ce pays a cherché à prendre le meilleur, en tout cas le plus esthétique de chacun des pays dont il a calqué un peu l'architecture. Mais ce qui est certain, c'est que ces cultures se rapprochent parce qu'elles se retrouvent dans un lieu qui est mythique, c'est la place Waqf ou le Souk Waqf. C'est un peu le contraste entre le Doha high-tech et le Doha traditionnel, parce que finalement ils ont gardé une partie de leur culture qu'ils essaient de préserver jalousement. C'est ce point de rencontre, c'est là où les Argentins, les Brésiliens, les Marocains, les Saoudiens, les quelques Français, les quelques Belges, les quelques Espagnols pouvaient cohabiter, partager, échanger, se saluer. Et visiblement, dans cette ville, pendant un mois, on a eu des rendez-vous cosmopolites, cocasses, souvent inhabituelles, mais qui ont apporté chaleur et couleur à cette Coupe du Monde ici au Qatar.
Merci Amine pour votre contribution dans la Mairie. Et vous, Tarsis, il y a tout là le match qui est en cours entre l'Argentine et les Pays-Bas. C'est deux cultures qui s'affrontent. Au niveau de l'animation du jeu, est-ce que c'est décevant après 23 minutes de cette rencontre ?
Non, c'est un round d'observation comme on a l'habitude de le constater, encore que effectivement on aura des styles qui se rapprochent en sport vif néerlandais, et puis bien de l'autre côté, eh bien le jeu qui s'appuie sur effectivement certaines individualités, le jeu, le style argentin qui est vif aussi, et donc on est en train d'assister à un bon match, et vous allez voir comment en deuxième période c'est là où les choses vont s'éclaircir, parce que là après ce round certainement qu'ils vont passer à l'assaut. Et moi, je vais voir le néerlandais que nous connaissons depuis, et puis face au jeu argentin. Ça, c'est... Mais ce sont des styles presque semblables, mais schémas différents. Donc ça va être très, très, très agréable à voir. Mais si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je considère le football comme un mariage de raison, un homme et une femme, mais à New Yorkais et puis en français. Et finalement, tu peux contester l'enfant qui va naître. Il sera soit suisse, il sera soit marocain. Ben là, on s'en fout. Et ce qui est intéressant dans ce mondial qui vient de se passer, moi, j'ai retenu des images. C'est l'image du Maroc qui bat la Belgique, c'est l'image du Maroc qui bat l'Espagne. La Belgique, il y a beaucoup, beaucoup de Marocains qui ont évolué en Belgique, qui sont en Belgique, qui sont nés en Belgique, qui sont devenus Belges. Et de l'autre côté, en Espagne, c'est exactement la même chose. Il y a en fait une petite séparation de l'eau, et puis tu quittes évidemment le Maroc, tu arrives en Espagne. Et on va voir aussi avec ce qui va se passer avec le Portugal. Ça, c'est tellement intéressant. C'est deux pays méditerranéens qui partagent les mêmes cultures et finalement qui s'assemblent et qui se rassemblent. C'est ça en fait. Ça, la force du football. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. On se marie. On se marie et puis on a des enfants. On a des enfants mulâtres. Et le football, c'est ça. Donc tu jettes un ballon, c'est un blanc et un noir qui coule derrière le ballon. Donc tu réussis à unifier sans même parler, sans passer par l'église ou sans passer par des supports pédagogiques pour unir les gens. Il suffit de jeter le ballon dans les rues en Argentine ou un peu partout et ce sont les enfants qui accoutent derrière le petit ballon.
Coach Fofo, vous êtes coach, vous aimez beaucoup le style de football. Est-ce que quand on parle de culture foot, C'est aussi le style, n'est-ce pas?
Mais c'est vraiment hostile, parce que c'est unique. Je l'ai toujours dit, surtout dans ce pays qu'on vient apprendre, surtout aux enfants américains, ce que c'est que le foot. Et ils ont commencé à découvrir que le football est fantastique. Et ça donne, ça refortifie l'esprit, ça réconcilie, ça donne la discipline, ça donne la fraternité. J'ai vu autour de moi des enfants qui sont venus, qui ne parlaient pas le même langage, mais avec quand tu les mets ensemble, ils évoluent parfaitement. Donc le football est vraiment hostile et je crois que c'est même plus fraternel. J'ai eu l'anecdote en 1990 quand je suis arrivé en France pour jouer et le mur de Yougoslavie aussi a éclaté. On a eu des joueurs dans mon club qui sont venus de Zagreb, de Yougoslavie, et ils se sont retrouvés entre eux. Et c'est malgré qu'il y a la guerre, mais ils sont là, ils ne voyaient pas la guerre. Ils se souciaient seulement à jouer pour le club qui les a engagés et pour avoir des résultats. Donc, le football les a permis d'oublier la guerre qui se passait chez dans la maison, chez eux là-bas, est en train de se détruire parce que on savait comment la Yougoslavie était composée. Donc, quand je retourne ma tête derrière et vois toutes ces choses, je crois que le football est vraiment aussi formidable. Et j'ai eu la chance vraiment d'être footballeur et de continuer à exercer cette expérience au jour d'aujourd'hui. Et c'est formidable. C'est formidable de voir comment on a changé beaucoup de vies, surtout aux États-Unis ici. Parce que le football a enlevé beaucoup d'enfants de la rue, de la drogue. Et aujourd'hui, et ils sont très assidus, ils vont à l'école, même jouent dans l'université. Donc le football change la vie et le football est fraternel.
Tarsis, très rapidement, le football, c'est aussi la diversité culturelle quand on voit les équipes qui sont des mélanges de cultures en 30 secondes.
Oui, les mélanges de cultures parce qu'il y a ce qu'on appelle un système organisationnel et communautaire. Donc vous rentrez dans la communauté pour détecter les meilleurs éléments et vous ne pensez pas que c'est un noir ou un blanc. Donc ça c'est en fait... C'est multiculturel et c'est très important. Inclusion communautaire, et organisationnel.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique. Vous, Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du ballon rond, était avec nous. Coach Fofo était également avec nous. Amine Birouk était à Doha au Qatar. Eric Manirakiza était au micro. Lionel Donanelagahima a assuré la mise en onde. Au revoir.